on est en onde. C'est pas pire, hein? C'est un concept de mon ami Frédérico de Créativité Québec qui nous a décidé, il a dit, tiens, quand tu me sauveras, c'est parce que t'es en onde. Hey, Marc-André, merci d'être là.
Ben, merci à toi. Là, je t'informe tout de suite que je suis daltonien.
Ah, oh non, c'est
et
vrai.
Je distingue mal le vert et le rouge.
Ah, oh, que là, toi, il y a quelle couleur pour toi?
Là, c'est un petit vert, fait que je le vois, là. Mais je vois la différence entre les deux. Ouais. Mais finalement, je suis daltonien, vert et rouge.
Pas ça.
Il y a bien des choses, tu sais pas.
Ben non, mais je sais que t'es un, je sais une chose, par contre. Je sais que t'es un directeur extraordinaire. On a eu l'occasion de jaser pour ma troisième saison du camp de pédagogue. Je suis tellement heureux que tu me dises oui pour venir jaser une deuxième fois. On s'est dit qu'on jaserait de toute façon. Puis là, tu vois, regarde, tout est dans tout. On est rendu là ensemble. Marc-André, créativité, côté créatif, je sais que t'es un gars très créatif, mais je sais une chose aussi, c'est que là, t'étais à la COPS, puis t'as donné des conférences. Là, t'en as donné une tantôt.
Oui.
Tu en donnes un autre plus tard.
J'en donne deux demain, une aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi. J'en donne une tantôt, puis j'en donne deux demain.
Mais c'est-tu le même sujet, Marc-André?
Non.
OK.
Aujourd'hui, je parlais un petit peu là des activités que j'ai menées, des projets pour lesquels je suis connu quand même. Et puis, je voulais surtout, c'était un petit peu mode storytelling. Fait que je voulais que le monde serre leur crayon puis qu'on jase, qu'on va avoir des idées. Demain, on parle de leadership demain matin. Et puis, demain après-midi, on va faire un survol de notre voyage en Finlande.
C'est à quelle heure demain après-midi?
14h30.
OK.
14h30 au 306 A ou B, là, je me souviens plus. Là.
OK. Ouais. OK. Et j'ai bien hâte de ça. J'espère être capable. Je vais être dans mon démontage, mais si j'ai fini, je vais aller courir vers ton
conférence.
Raconte-moi un peu, on s'en est parlé un peu, si vous allez voir le camp de pédagogue, là, mais raconte-moi un peu, peux-tu me faire un teaser de ce que tu vas faire dans ta conférence, surtout quand tu parles de la Finlande, là?
Ben, tu sais, on est allé en Finlande presque 3 semaines, il y a un an et des poussières. Et puis, quand on parle de la Finlande, ça attire tout de suite l'intérêt des enseignants, de la direction, etc. Puis, on voulait justement faire un survol, transmettre ce qu'on a fait, parce que c'était le but de notre... Tu sais, on n'est pas allé là en voyage pour aller en voyage. On voulait aller visiter des écoles. On a visité, si ma mémoire est bonne, là, un petit peu plus qu'une douzaine d'écoles, là, 13 ou 14. On a passé à travers, on est allé du nord au sud, d'est en ouest. On l'a fait au complet, la Finlande. Là. On est allé jusqu'au 70e parallèle. Ça, c'est la limite nord de la Finlande.
Wow.
L'autre bord du fleuve, c'est la Norvège.
Wow.
Et puis, 60 kilomètres à vol d'oiseau de là, t'as la mer de Barents, donc l'océan Arctique. Fait qu'on est allé au royaume du soleil de minuit, des aurores boréales et des écoles dans le milieu Sami. Donc, Sami, c'est un peu le peuple indigène, le peuple autochtone qui est là-bas. Fait que tu sais, c'est tout ça, comment on a vécu la Finlande, puis qu'est-ce qui se passe dans les écoles, comment les profs le font. Même si on a fait plusieurs arrêts, moi j'étais allé déjà une fois, là, 5 jours, puis j'avais fait vraiment des petits sauts dans 2-3 écoles. Là, je voulais vraiment voir plus.
Okay.
Alors, c'est un petit peu ça, on va faire un peu le compte-rendu de ce voyage-là.
Va se avoir du film un peu, c'est-tu interactif ton...
Oui, il va avoir du film, il va avoir de l'interaction, on répond aux questions. Aussi, on pose des questions sur les préjugés qu'ils ont. Ça, c'est le pays le plus heureux au monde.
Ouais.
Tu sais, ils sont tous peignés sur le côté. Il y a des élèves là, qui ont des 10, là, les DYS, là, dyslexie, dyscalculie, il y a des troubles de comportement, il y a ça. Fait que il y a des élèves autistes aussi, TSA qui sont en Finlande. Fait que comment on est allé voir toutes ces classes-là, on est allé voir le primaire, le secondaire, on est allé en formation professionnelle, on est allé dans des grosses écoles, des petites écoles, des nouvelles écoles, des vieilles écoles. Fait que c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas résumer 3 semaines en une heure et demie.
Non, c'est clair.
Mais quand même, on survole ça. Puis général, je pense qu'il y a beaucoup de monde d'inscrits demain. Puis pas loin de 150 là, personnes. Ou peut-être, je sais pas, en tout cas, beaucoup. Puis c'est ça va me donner l'occasion de partager tout ça. Puis de faire rêver le monde un peu.
Ça se peut-tu que... La Finlande sont pas mal plus axés sur la créativité que chez nous. Ton regard à toi, c'est quoi là-dessus?
Je pense pas qu'ils soient plus axés. C'est juste que, je te dirais en général, les Finlandais mettent plus l'accent sur les soft skills, comme on dit en anglais, les compétences humaines, là. Tandis que nous, on est beaucoup plus axé le programme. Là-bas, le programme est axé sur le transversal et le disciplinaire se greffe.
C'est le contraire.
Okay. Nous, on est axé sur le programme, sur le disciplinaire et le transversal, on n'a pas le temps de le faire. Ça fait 10 ans que c'est reporté, l'application. On reçoit toujours l'instruction annuelle qui dit que la mesure intérimaire, elle est reportée. Tandis qu'en Finlande, c'est le contraire. Donc, c'est peut-être ça qui donne l'impression qu'ils mettent plus accent sur le développement de la créativité, de la collaboration, d'un paquet d'autres choses.
T'es-tu en train de me dire qu'on devrait changer notre paradigme puis mettre l'emphase sur les transversales en premier au Québec? C'est ça que t'es en train de me dire?
Ben, je suis pas en train de te dire ça, mais c'est sûr, ça serait le fun d'y réfléchir. Parce que, tu sais, le taux de décrochage en Finlande, il est largement inférieur, si ma mémoire est bonne, en bas de 10%. Là, demain, je vais te dire. Nous, ici, on est à quoi? 25%, puis encore là, on le calcule sur 6 ans, ou même 7, si je me trompe pas, je m'en souviens plus. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Et, on est dans un monde nord-américain, hein. Ouais. Et puis la culture finnoise, on a beau être un pays qui se ressemblons là en termes de géographie, on se ressemble pas mal, mais en termes de culture, on se ressemble pas tant que ça. Et ici, on calcule beaucoup, hein. Quand on met de l'argent en éducation, on veut s'assurer qu'il y a un retour, on veut voir les résultats augmenter, on veut voir le taux de décrochage diminuer.
Ouais.
Ben, si on met l'accent sur les compétences humaines, si on peut dire.
Des soft skills.
Ben, à ce moment-là, tu peux pas avoir de statistiques. Fait que tout l'argent que tu vas mettre, est-ce que tu vas avoir des résultats? Fait qu'on est dans cette optique-là beaucoup en Amérique du Nord, en Ontario, aux États-Unis, au Québec. Fait que je dirais que si on vire ça à l'envers, faut qu'on change notre mindset. Faut que le politique accepte de financer ça. Et sans pouvoir nécessairement tout calculer.
On est-tu rendu là, Marc-André?
Ben, on est-tu rendu là dans notre mentalité? Non. Mais est-ce qu'on est rendu là peut-être dans notre système scolaire, où est-ce qu'on voit que on spine toujours la même roue, ben sur une plaque de glace. Là,
on a parlé hier de ça, la même roue. Parle-moi donc de ça. C'est quoi la même roue?
Ben la même roue, c'est le changement se fait pas assez rapidement dans les écoles, les élèves, la société évolue beaucoup plus rapidement que le milieu scolaire.
C'est clair.
Fait que la même roue, c'est ça. Fait qu'on essaie de recycler un modèle qui date d'aussi loin que du 17e siècle, là, quand tu lis la recherche en éducation, dans certains cas, là, et de l'appliquer au 21e siècle, où il y a des technologies qui font juste péter les murs à tout bout de champ pour pouvoir ouvrir les horizons de tout le monde. Fait que t'as l'élève où on lui demande d'être assis pendant, admettons, au secondaire, 4 fois 75 minutes à écouter, alors que ce qu'il entend, il peut tout le trouver sur YouTube. Fait que, tu sais, on essaie de recycler ce modèle-là. J'ai innovation ici de deux personnes.
Mais t'as raison. Puis il y a aussi un char côté drôlement inspirant qui l'avait dit, mais ça avait plus ou moins bien passé, là. Et quand il avait dit que tu avais juste allé voir sur YouTube, il était en train de se questionner sur la pertinence de l'école qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas nécessairement tort, mais je pense que c'est plutôt la manière qui en parlait. T'as déjà entendu ce qu'il
avait dit? Non, je l'ai pas entendu. Okay. Mais tu sais, il faut finir. Là, on a arrêté parce qu'on a eu une innovation.
Ouais, vas-y.
Mais essentiellement, c'est que, tu sais, si les connaissances sont accessibles facilement pour les élèves, là, il faut qu'on envisage autrement l'enseignement, l'éducation. Et il faut qu'on leur permettent de développer leur esprit critique. Donc, s'ils ont accès à toutes les informations qui ont été créées depuis le début de l'humanité, ben, il faut qu'on leur permette de discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que pour moi, l'esprit critique revient nécessairement dans l'équation. Et pour moi, le rôle de l'enseignant ou d'une personne en éducation, c'est essentiellement de guider l'élève à travers tout ça, puis l'aider à trouver son chemin. Ce matin, j'étais participant à la conférence d'Annie Turbide et de Marjorie, j'ai oublié son nom de famille, qui parlait justement du complotisme. Puis on voit exactement là où on en est. T'sais, on a de plus en plus d'informations qui est accessible, mais on est de plus en plus ignorant. C'est une drôle d'équation. Donc, est-ce qu'il y a moyen de sortir des programmes, d'aller chercher plus d'informations, mais surtout une meilleure façon de traiter cette information-là au niveau des compétences informationnelles, des compétences exécutives, mais aussi de toutes les soft skills qui peuvent être développées pour avoir un meilleur monde, un monde plus équitable, plus juste, plus créatif, plus empathique, plus collaboratif. Les problématiques du 21e siècle, tantôt je disais ça, je me souviens pas avec qui, mais les élèves héritent des problématiques qu'on leur a imposées, que nos parents leur ont exposées, que nos grands-parents leur ont exposées.
Effectivement.
Puis s'ils développent les mêmes façons que nous d'aborder, ben on fait juste exacerber la problématique. Ce qui fait que faut qu'à un moment donné, on marque un temps d'arrêt pour que nos jeunes réfléchissent différemment de nous et puis qu'ils puissent aborder ça de front, mais d'une autre façon. Donc, quand on parle de créativité, parce qu'on est au kiosque de Créativité Québec, je pense que le but ultime, C'est pas juste d'être créatif, faire des beaux dessins, là. C'est de trouver des solutions créatives à des problèmes qui sont complexes en collaboration. On parle de co-créativité. La créativité, c'est important, mais la co-créativité est encore plus importante. Il y a des recherches, de plus en plus de recherches en éducation, notamment la prof Margarida Romero qui travaille là-dessus. Fait que, on est là, moi, je pense, dans notre humanité. Puis pour moi, le seul rempart, c'est l'éducation.
C'est la pierre angulaire parce qu'on regardait ça. J'ai fait le parallèle dans un autre live, là, Marc-André, que j'ai fait hier. Je parlais avec Luc Sirois, puis il disait que ce serait sérieusement temps d'être créatif, montrer ça aux jeunes pour le pousser, pour que le parent ait pas le choix d'embarquer dans la patente. T'sais, un peu, je fais le parallèle avec les journées de Maman Maurice qu'on a eues. Tu travailles aussi fit, je pensais, ça se peut-tu?
Pardon?
Tu travailles-tu aussi fit? T'es-tu... Non, t'es pas directeur là? Non,
t'as okay. Pas travaillé là.
Mais normalement, Maurice, le père des récupérations, tu sais,
habitude,
c'est faire, CFR, tu sais
oui,
quoi?
On a un CFR à l'école.
T'en as un?
Oui.
OK, je me suis trompé. J'ai dit, c'est fait toi et c'est faire. Mais ce qu'a fait normalement Maurice, c'est que lui, il a ramassé, il a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer la récupération aux jeunes, puis ça va monter. Fait qu'à un moment donné, les familles vont finir par le faire. C'est ça, je disais hier. Fait que, y a-tu quoi, tu penses, y a-tu un parallèle qu'on pourrait faire, mettons, sur les soft skills, s'il y en a de même, puis que, inculquer cette culture-là de l'école, mettons, puis de la lancer davantage dans la société?
Oui, mais, tu sais, si on prend le cas de la récupération, c'est un point précis. Tu sais,
c'est pointu. Ouais.
Nous, ce qu'on veut, là, c'est que les élèves aient dans leur sac des compétences qui leur permettent pas seulement de travailler en récupération, mais de travailler au niveau du réchauffement climatique, les grandes migrations, ouais, les conflits internationaux. Ouais. Fait que cette créativité-là, faut qu'elle soit multifacette, ouais, qui pour leur permettre, justement, de se moduler à la problématique à laquelle ils veulent s'attaquer. Donc, la récupération, moi, je trouve que c'est un bel exemple de spécifique, mais en amont de ce spécifique-là, qu'est-ce qu'on fait pour tous nos élèves, pas juste le CFR? Parce que le CFR, je présume que tu connais bien le programme, là. On en a un à l'école, c'est des élèves qui sont en bout de ligne essentiellement. Là, c'est des élèves qui n'ont pas nécessairement les acquis du primaire,
non,
qui cherchent, qui ont des difficultés, puis qui trouvent pas leur place nulle part. Puis moi, quand je regarde les profs du CFR à l'école, qui sont des, je dirais, des saints, là, qui
ouais,
sont
hein?
absolument extraordinaires. Puis je me dis, quand je les vois travailler, je me dis, ils travaillent avec des élèves difficiles, puis ils parviennent à des résultats absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on met de côté un peu le programme. Ils travaillent sur les compétences, ils travaillent sur le savoir-être, le savoir-vivre, l'empathie, le respect de sa personne, celui des autres, travailler en milieu de stage, comment se présenter. Fait que, tu sais, les habiletés sociales, là. D'après moi, c'est pour ça qu'ils arrivent à des beaux résultats. Parce que, oui, ils enseignent, oui, les élèves sont assis en classe, mais essentiellement, le but, c'est plus ça, là, c'est des diplômés dans avec un diplôme CFR, justement, là, pour qu'ils puissent être fonctionnels sur le milieu du travail, puis faire des bons papas, des bonnes mamans, des bons voisins.
Ça me parle, ça, parce que ce qu'on est en train de montrer, c'est que chez les élèves qui vivent des difficultés, on obtient des résultats remarquables. On devrait avoir tendance à regarder ce qui se passe chez les CFR, là, les profs, les directions d'école. T'as ce regard-là, mais dans ton milieu, à toi, les directions, est-ce que ils ont ça, cette sensibilité? Ils ont-tu ça, cette sensibilité-là, les directions d'école, ou t'es comme une bébite, toi, Marc-André?
Bon, je peux pas te répondre à ça, je sais pas. C'est sûr et certain qu'en direction, on est beaucoup axé sur l'administratif. Donc, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, matérielles, etc. Ça prend un temps énorme. Moi, je pense qu'on devrait être plus présent sur la gestion de la pédagogie. Mais je veux dire, je me qualifie peut-être de bébite par mes intérêts, mais je suis pas plus fin que mes confrères, mes consœurs, parce que moi aussi, je me fais absorber par la gestion des ressources, mm-hmm, alors que j'aimerais passer beaucoup plus de temps à jaser de pédagogie avec les enseignants pour pouvoir justement discuter, débattre, mettre en place des choses. Bon, j'ai des directions adjointes qui le font.
OK.
Je suis chanceux, mais essentiellement, c'est sûr que pour moi, mon rôle premier, c'est de travailler au niveau pédagogique, puis j'ai de la difficulté à le faire. La recherche en éducation, là, je suis fatigué avec ma recherche en éducation,
oui,
mais ça le démontre, là, que pour les directions, c'est une problématique où est-ce que le pédagogique est souvent occulté par la gestion des ressources humaines, des ressources financières, etc., surtout en temps, je présume, là, surtout en temps de pandémie. Tu sais, trouver des profs, c'est plus facile, hein?
Oui,
là, c'est trouver plus facile. Directions non plus.
Direction non plus, je pense. Là, tu viens m'étitiller avec ça, le côté direction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, mettons, aller vers les directeurs, les profs deviennent directeurs. Comment rendre ça séduisant? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage? Ouais, parce qu'on a de besoin. Hein?
Je me fais souvent dire, mon Dieu, je ferais pas ta job.
Oui, ben, ouais, c'est exactement moi, ce que je...
Tiens, on parle de reconnaissance. Là, on t'entend de négociation de convention collective puis de revendication de reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, ça commence par l'image qu'on projette dans notre profession, qu'on soit enseignant ou qu'on soit directeur.
OK.
Moi, tu m'entendras pas de me plaindre des difficultés que je peux avoir. Fait que j'essaie d'avoir un discours positif envers le travail que je fais. C'est sûr que je fais pas un travail facile. Enseigner, de toute façon, là, c'est pas facile non plus.
Hein? Non, point.
Fait que je fais pas broyer personne si je dis que mon travail de direction est difficile. Fait qu'en partant, c'est comme un peu cause perdue.
Ouais.
Pour répondre à ta question plus précisément, à part moi-même avoir un discours positif envers mon travail, ben je dirais dans un premier temps, c'est toute la question de la formation. Donc, donner les bons outils, avoir une formation qui colle vraiment à la réalité. Je pense que c'est le cas, mais c'est sûr qu'il y a un choc. Un peu comme un prof qui arrive, qui sort d'université, qui arrive dans les écoles, il y a un choc.
Merci.
C'est un peu la même chose en direction.
Ouais.
Donner accès à un réseau, hein, parce que qui est-ce que je peux appeler quand j'ai des questions? Parce que t'as pas tant le goût d'appeler ton boss ou d'avoir de l'aide du dernier, des incompétents. Fait que qui est-ce que je peux appeler qui peut répondre à ma question? Des groupes de co-développement. Tu sais, j'ai telle situation dans mon école, tel élève, qu'on a suspendu, puis que l'intimidation. Toi, tu gères ça comment dans ton école? Ah, ben moi aussi, je pourrais peut-être faire ça. Fait que ça, c'est des choses qui sont mises en place, un espèce de filet pour rassurer les futurs candidats, pour leur dire, hey, derrière toi, t'es pas tout seul dans ton bureau, parce qu'on parle souvent de la solitude du directeur, là. Mais j'essaie de pas être tout seul. Des fois, je me sens seul, là, comme n'importe qui.
Ouais.
Mais je veux dire, essentiellement, quand tu sors la tête un petit peu de ton bureau, t'es capable de voir que t'es pas tout seul, puis il y a du monde qui sont là pour te soutenir. Fait que c'est ça, je dirais d'avoir un discours positif dans la profession. Après ça, mettre en place des filets pour pouvoir permettre au directeur d'avoir un safe space, comme on dit. La formation continue, je pense, c'est le nerf de la guerre. Et puis, évidemment, les conditions salariales, c'est toujours un nerf de la guerre. Comme pour les enseignants, là, encore une fois, je ne fais pas pleurer personne.
Non, non, ben non.
Mais c'est sûr que c'est exigeant sur le en termes de temps, d'énergie. Fait que c'est ça. Mais tu sais, la reconnaissance salariale, c'est pas juste une question de direction, c'est une question d'éducation en général.
Oui, c'est vrai. As-tu Marc-André, est-ce que tu marches ton école?
J'essaie.
C'est facile.
On la marche. Non, c'est pas facile. C'est facile à marcher, mais c'est comment je peux dire? Ce qui est difficile, c'est de prendre le temps pour le faire.
Ouais.
C'est pas de la marcher. Un coup que tu marches, puis tu vas voir ton monde, il n'y a pas de problème. Les enseignants adorent ça quand on est là, puis qu'on est capable de se faire accrocher dans le corridor, puis de répondre aux petites questions ou des petites problématiques qui peuvent se régler dans le corridor, puis. T'sais, on dit souvent qu'un problème qui peut se régler dans l'informel, c'est un problème qui prend pas
qui grossit pas. Ouais.
Fait que oui, on a avantage à marcher notre école. Maintenant, faut trouver le temps pour le marcher.
Ouais.
Et puis, t'sais, on est toujours en réunion de ci, réunion de ça, à l'extérieur de l'école pour une réunion, fait que ça devient difficile. Moi, je trouve que ça marche pas assez. Je suis sûr et certain que si j'interviewais des enseignants dans mon école, ils diraient qu'ils me voient pas assez. Mais j'essaie de le faire le plus possible.
Chez Créativité Québec, ils font des espèces de moments où ce que les enseignants peuvent communiquer ensemble et parler de réalité, parce qu'ils se vivent. Tu nous as parlé un peu que ta job de direction, mais ils se vivent aussi ça chez les profs là, comme quoi c'est difficile. Puis ils partagent dans le fond, puis ils partagent leurs difficultés, puis ils sentent écoutés. Est-ce que tu penses que une espèce que Créativité Québec aurait peut-être avantage à aller chercher ce même type de travail-là chez direction d'école? On jase, là.
Ben oui, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée de mettre des personnes ensemble pour discuter. Ça revient un peu à du co-développement.
Exact.
Mais orienter, le principe du co-développement, c'est que tu arrives toi-même avec ta problématique que tu partages à tout le monde. Mais si cette problématique-là est imposée par Créativité Québec, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais,
ouais.
Le problème qu'on a, là, c'est que la créativité, c'est super important. Mais un, faut la démystifier. Fait que il y a ce travail-là dans un premier temps qui doit être fait, d'accord? Parce que moi, la première fois que j'ai été en contact avec la créativité, je vais vous le raconter, on est-tu pressé?
Vas-y, pas le temps.
Je vais passer des tests psychométriques, je sais pas si c'est quoi un test psychométrique
oui.
pour un emploi. Fait que il te pose un paquet de questions. Puis après ça, tu rencontres le psychologue qui analyse ça avec toi. Puis, elle m'avait demandé, dans tout ça, fait que tu sais, t'avais un in-basket qui appelle là où tu gères des problèmes, puis t'es mis en ordre de priorité, puis comment tu ferais ça. Puis après ça, tu as des choix de réponse. Est-ce que tu aimerais mieux être astronaute ou chef cuisinier? Après ça, est-ce que tu aimerais mieux être militaire ou promeneur de chien? Peu importe. Là. Bon. Là, après ça, elle me dit, fais-moi un dessin. J'aimerais ça que tu me dessines une maison. Fait que là, je dessine une maison. Là, t'sais, un carré avec un triangle, une petite cheminée qui fume. Je suis pas bon en dessin. Après ça, dessine-moi une équipe. Fait que je mets des bonhommes animés qui se tiennent la main. Fait que je revois deux, trois semaines plus tard pour l'analyse de tout ça. Elle s'assoit puis elle me dit, tu sais, Marc-André, t'es très créatif. J'ai comme fait, pardon. Je dis, c'est quoi, ce joke-là? Tu sais, puis ça coûte une fortune, les tests psychométriques, là, on parle de 3, 4, 5 000 piastres, même plus, tu sais. Fait que je suis comme, vous allez pas juste me sortir ça comme, tu sais, je suis pas créatif. Avez-vous vu mes dessins, tu sais? Mais moi, dans ma tête, c'était ça, être créatif. C'est juste faire des dessins ou être bon en dessin. Tu sais, là, ça fait, quoi, 20 ans de ça, là.
Voilà.
Fait que je m'étais jamais posé à ça. Puis ça m'a toujours resté dans la tête parce que j'aime beaucoup la musique. Ouais. Tu sais, j'aime aller voir des spectacles. Ouais. J'aime l'art. Fait que là, je me suis mis à réfléchir. Ça m'est trotté dans la tête. Puis je me suis rendu compte qu'à travers les projets que je menais, j'étais créatif. Fait qu'essentiellement, la créativité, c'est de partir de rien puis d'essayer de faire quelque chose. Ou de partir de quelque chose et de le transformer en autre chose. Ça peut être plusieurs choses. Puis là, je me suis rendu compte que, hey, je suis créatif à fond, moi, là. Mais je l'avais pas envisagé. Fait que ça a été mon premier contact avec ça. Fait que si je reviens à ta question, moi je pense que oui, ça serait intéressant qu'on prenne le temps de faire ça. Mais il faut trouver une façon de le faire parce que les directions, tu sais, les profs sont toujours occupés par le temps. Ouais. Les directions, devine quoi, sont occupés par le temps. Fait qu'il faut prendre le temps, puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut l'arrêter ce temps-là. C'est comme si le temps nous était imposé, la grande course folle. Mais si tu mets jamais le stop, ton temps, il arrêtera pas. Puis je pense que si tu prends deux, trois, une journée, une demi-journée à parler avec d'autres collègues, à parler de créativité, puis comment est-ce qu'on est capable d'entrevoir notre travail différemment, bien à ce moment-là, ça te donne un levier pour développer ta mentalité de croissance, puis t'épanouir, puis t'actualiser. Une direction qui s'actualise dans son milieu permet aux enseignants de le faire,
qui permet
indirectement aux élèves de le faire. Mm-hmm. Fait quand on parle de l'effet enseignant, c'est l'effet que l'enseignant a sur ses élèves. Il est direct. Il est clairement identifiable. Mais l'effet que la direction a sur les élèves, il passe par l'enseignant.
Fait que tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Ça découle. Hein, Marc-André, c'est toujours un bonheur de jaser avec toi. Là. Le podcast qu'on a eu ensemble, j'ai fait « waouh, on va se reprendre, on s'est repris, on va encore se reprendre? »
Avec plaisir.
OK, c'est bon. Fait que je te souhaite une belle conférence. On a une tantôt.
Une demain, deux demain. Une demain matin, une demain après-midi, on a eu une tantôt.
Fait que c'est...
Fait que one down, two to go.
Fait que c'est bois de l'eau, hein?
Oui.
Ouais, c'est bon.
J'échappe ma bouteille, par exemple.
Merci, Marc-André.
Yes, sir.